avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Olivier Drapé, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire où en est aujourd'hui le projet de la réforme des retraites dont nous avons parlé il y a quelques semaines et qui sera présenté fin janvier en Conseil des ministres avant d'être soumis au vote du Parlement ?
Tout d'abord, on peut rappeler que le point principal, c'est une réforme du système actuel lui-même qui rentrera progressivement, en fonction de l'année de naissance des personnes intéressées, en vigueur à partir de 2025, normalement. C'est-à-dire qu'on va mettre en place, comme nous le disions il y a quelques semaines, en effet, un système universel qui se substituera aux 42, je crois, régimes spéciaux qui existent actuellement. Et par ailleurs, ce système plus égalitaire prévoit d'être un système à points, comme il en existe dans certains pays européens, et non plus par annuité. C'est-à-dire que le montant de la retraite dépendra pour chacun d'entre nous du nombre de points acquis par le versement de ses cotisations, et par conséquent, il dépendra de la valeur du point. Et cette valeur du point sera en principe fixé chaque année par les partenaires sociaux avec l'État, mais en fonction, bien évidemment, du contexte à la fois démographique et du contexte économique. Autrement dit, les économistes ou les hauts fonctionnaires concernés conviennent tout à fait sur le point suivant, c'est une illusion de prétendre, comme le fait Édouard Philippe, comme il l'a fait récemment, qu'une règle d'or qui serait votée, qui serait inscrite dans la loi, permettra que la valeur du point ne puisse pas baisser, car en réalité, précisément, la finalité de ce nouveau système est de faire en sorte que la valeur du point puisse être une variable d'ajustement, notamment en fonction du contexte économique, comme on le disait il y a un instant. Et c'est bien d'ailleurs ce que disait M. François Fillon il y a quelques années, c'était en 2016, on l'avait rappelé la dernière fois également, quand il expliquait que la finalité d'un tel système était effectivement de pouvoir jouer sur la valeur du point afin de baisser éventuellement le montant des retraites d'une façon globale. Ça, c'est un premier point, la réforme du système. Et puis, il y en a un second qui, d'ailleurs, suscite la colère de certains syndicalistes, et notamment de la CFDT et de son numéro 1, M. Laurent Berger. C'est-à-dire que, parallèlement à cette réforme, que la CFDT, par exemple, accepte pour ce qui est d'un système universel à points, il y a aussi une réforme dite paramétrique. On joue sur un paramètre. On veut obtenir que les personnes concernées travaillent en réalité plus longtemps par l'instauration d'un âge d'équilibre ou d'un âge pivot. On appelle âge pivot l'âge auquel on pourra prétendre à une retraite à taux plein. C'est-à-dire qu'en fait, l'âge légal du départ à la retraite serait toujours de 62 ans, mais de façon particulièrement hypocrite, un âge d'équilibre à 64 ans, finalement, nous amènerait les uns et les autres à travailler davantage. Les personnes qui partiraient plus tôt que cet âge pivot de 64 ans se verraient donc appliquer un malus, et en contrepartie, ceux qui partiraient plus tard, un bonus. Alors on peut considérer qu'il y a là d'abord une injustice par rapport à des personnes qui ont cotisé toute leur vie durant. Il y a une hypocrisie par rapport à cet âge légal de la retraite qui serait de 62 ans, mais qui ne serait plus la référence à partir de laquelle on toucherait le montant de sa pension. Mais aussi, il y a une illusion qui me paraît très claire. C'est l'illusion qui découle du fait que les seniors ont particulièrement des difficultés à trouver un travail ou à s'y maintenir, en tout cas au-delà de 60 ans. Il faut savoir que à peu près la moitié des personnes de 60 ans ne sont plus en activité. C'est ce qui fait dire d'ailleurs, par exemple, au syndicat CFTC de la métallurgie des Yvelines, que retarder l'âge de la retraite avec la difficulté qu'ont les seniors à trouver un travail, c'est en réalité transférer la dépense sur l'assurance chômage. Ça ne signifie donc pas qu'on va régler le problème des comptes publics de cette façon.
Et que faut-il, selon vous, en penser par rapport au principe de la doctrine sociale de l'Église ?
Alors, la doctrine sociale de l'Église, elle ne va jamais donner de réponse toute faite. Elle va donner un certain nombre de pistes, de réflexions pour que chacun puisse discerner, effectivement, et effectivement peut-être aussi voir comment il doit agir. Mais il y a deux études intéressantes qui méritent peut-être d'être mentionnées. C'est une étude qui a été faite au niveau de la Conférence des évêques de France par le Service national Famille et Société, et notamment par le père Cata, qui est un jésuite de ce Service national Famille et Société, qui insiste sur des grands principes généraux, comme le fait toujours la doctrine sociale. D'abord, l'importance d'un système de retraite par répartition, qui permet une solidarité entre les générations, contrairement à un système qui serait uniquement un système par capitalisation. Et la préoccupation de la Conférence des évêques de France est peut-être d'éviter qu'on puisse dériver à cause d'une paupérisation des retraités vers un système par capitalisation qui favoriserait les plus aisés au profit de catégories plus modestes. Et puis ce qu'on peut appeler l'option préférentielle pour les pauvres, c'est-à-dire que, écrit le père Cata, comment les évolutions envisagées vont-elles affecter les plus précaires ? En quoi le système actuel montre-t-il des limites pour des personnes précaires, des catégories des personnes auxquelles pensaient les agriculteurs, et plus encore aujourd'hui les agricultrices, femmes d'agriculteurs, les travailleurs indépendants, les personnes vivant des minima sociaux, car le RSA par exemple, on ne cotise pas à la retraite quand on touche le RSA, les auto-entrepreneurs, etc. Bref, il y a effectivement un souci à avoir par rapport à des catégories auxquelles le projet du gouvernement ne semble pas prêter beaucoup d'attention. Et puis une autre étude intéressante est celle de M. Denis Sureau dans le bulletin qui s'intitule « Chrétien dans la cité » où Denis Sureau, de manière peut-être un peu iconoclaste par rapport à ce qu'on peut lire, considère que quand on se réfère au principe de subsidiarité, eh bien, dit-il, dans une société organisée en fonction du principe de subsidiarité, l'existence de régimes spéciaux va de soi, à condition que dans chaque branche professionnelle, employeur et employé en assurent librement la cogestion sans interférence de l'État, sauf en cas de défaillance prolongée. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on a une vision très systématique avec ce projet du gouvernement. La mise en place d'une caisse unique pour l'ensemble des travailleurs du pays présente inévitablement, comme nous le disions il y a quelques semaines aussi, un risque de gestion étatique, monopolistique, somme toute inefficace sans doute, qui n'est pas tout à fait conforme à ce principe de subsidiarité et à la reconnaissance de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, des corporations professionnelles, qui sont tout à fait capables de gérer par elles-mêmes un système adapté à leur catégorie socio-professionnelle.
La France est en partie paralysée par les grèves décrétées par une majorité de syndicats opposés à la réforme des retraites. Ces grèves sont-elles pour autant justifiées ?
Il est tout à fait fondamental dans la doctrine sociale de l'Église que les travailleurs puissent défendre leurs intérêts et par conséquent qu'ils puissent aussi se syndiquer et avoir des syndicats qui les défendent. Bon. La doctrine sociale de l'Église, elle reconnaît par conséquent la légitimité du droit de grève, mais elle le fait en rappelant qu'il y a certaines conditions qui sont liées à la nécessité de préserver le bien commun de l'entreprise comme celui de la société en général, et qui insiste aussi sur le fait que le droit de grève doit être, dans tous les cas, un ultime recours. Alors je cite, comme j'aime le faire, le catéchisme de l'Église catholique, c'est le paragraphe 2435, « La grève est moralement légitime quand elle se présente comme un recours inévitable, sinon nécessaire, en vue d'un bénéfice proportionné. Elle devient moralement inacceptable lorsqu'elle s'accompagne de violences ou encore si on lui assigne des objectifs non directement liés aux conditions de travail ou contraires au bien commun. » Si bien que la grève, en l'occurrence, me paraît tout à fait légitime pour préserver des acquis sociaux qui sont importants pour l'ensemble de la population. Néanmoins, il faut être vigilant, il ne faut pas que cette grève tourne à la défense d'avantages purement catégoriels, au détriment du bien commun, par exemple en prenant en otage pendant un temps illimité des millions de personnes bloquées ou paralysées par la grève des transports, comme c'est le cas par exemple dans la région parisienne. Donc la réponse, elle est nécessairement nuancée et un peu complexe.
Pour en revenir au projet lui-même, pensez-vous, comme Édouard Philippe et Marlène Schiappa l'ont maintes fois répété, que la réforme des retraites envisagée est particulièrement favorable aux femmes et aux mères de famille ?
Actuellement, les femmes, elles ont en moyenne une retraite d'un montant inférieur de 40 ou 42% à la retraite touchée par les hommes. C'est en grande partie lié à leur condition, à la condition maternelle, c'est-à-dire que les femmes qui sont mères de famille ont besoin, sans doute plus que d'autres catégories, à la fois de congés, maternité, parentalité, et aussi parfois des aménagements, travail à temps partiel, au profit de la famille et des enfants. Alors, les mesures annoncées par le gouvernement, majoration de 5% dès le premier enfant et puis de 2% à partir du troisième enfant, en réalité, ne compensent pas, contrairement à ce que affirme le gouvernement, ne compensent pas la suppression des 8 trimestres supplémentaires de retraite par enfant pour les mères de famille et la majoration de 10% à partir du troisième enfant pour les deux parents, qui sont supprimés dans le projet de loi tel que le gouvernement l'envisage actuellement. D'autant moins d'ailleurs que la retraite sera désormais calculée selon ce projet de loi non plus sur les 25 meilleures années de salaire, mais sur l'ensemble de la vie professionnelle, sur l'ensemble de la carrière, et par conséquent des femmes qui effectivement ont besoin de congés parentaux ou de travail à temps partiel seront nécessairement défavorisées, ce qui est d'autant plus regrettable que, comme nous le disions aussi il y a quelques semaines, le problème de fond pour la retraite, c'est tout de même celui du non-renouvellement des générations, car les enfants qui ne voient pas le jour en raison d'une absence ou d'une insuffisance de la politique familiale, ce sont des cotisants qui sont absents et qui par conséquent sont à l'origine d'un déséquilibre, celui que nous connaissons actuellement, entre le nombre d'actifs et le nombre d'inactifs, notamment les retraités, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la nécessité d'une véritable politique familiale. On ne peut pas aborder la question des retraites en faisant l'impasse sur la politique familiale.
Merci Olivier Drapé, rendez-vous dans 15 jours.
Merci.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, 05 59 59 67 92. Thank you.